Hélène Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. La France en arrêt maladie, c'est la crainte du Conseil scientifique. Alors que le compteur des contaminations s'affole, 88 000 ces dernières 24 heures. Le variant Omicron va-t-il désorganiser la société en janvier parce que trop de personnes contaminées devront rester à la maison? Les règles d'isolement, en tout cas, vont être revues, annonce ce soir Olivier Véran. Et d'ici là, les Français prennent leurs précautions. Il y a beaucoup de monde dans les laboratoires aujourd'hui pour être sûr de passer un réveillon serein. Dans l'actualité encore, la condamnation unanime des pays engagés au Mali, dont la France, face au déploiement des mercenaires du groupe Wagner. Ils accusent la Russie d'être impliquée. La mise en examen de Franck Provost pour blanchiment de fraude fiscale. Et puis la mort d'une figure de la littérature américaine, Joan Didion. Elle avait 87 ans, pionnière du journalisme littéraire, on l'entendra. Et au téléphone sonne Fabienne.
Bien, vous connaissez cette scène, Hélène, j'en suis sûre. Il manque de cadeaux, bouge pas, je file rapidement à la librairie. Sauf que rapidement et un 24 décembre, ça ne va pas du tout ensemble. Ce soir, on va vous aider à tomber juste dans votre choix de livres, de beaux livres, de BD, de romans. Ça vous évitera de tourner pendant deux heures les bras ballants. Vos suggestions sont les bienvenues pour aider les retardataires, une libraire et le service culture de France Inter est là aussi pour vous aiguiller. On s'appelle au 01 45 24 7000.
Et si la rentrée virait au grand bazar à cause d'un variant, semble-t-il moins sévère mais très contagieux, beaucoup plus de malades, on va vite arriver aux 100 000 contaminations par jour, ça veut dire probablement plus de patients à l'hôpital pour les plus atteints, mais à côté de ça aussi, énormément d'arrêts maladie, de cas légers ou asymptomatiques qui ne vont pas pouvoir aller travailler, de quoi désorganiser la société, alerte aujourd'hui le Conseil scientifique. Bonsoir Laurent Kramer.
Bonsoir.
Ça commence même à se voir dans certains secteurs.
Oui, à la SNCF, suffisamment prévoyante dans son activité cadencée pour constater qu'elle ne pourra pas assurer tous ses trains d'ici la fin du mois. Alors pas de panique, il s'agit de quelques lignes locales remplacées par des autocars, certes, mais le signal de ces lignes régionales indisponibles en Occitanie, principalement de quelques TER ponctuellement annulés un peu partout sur le territoire, interroge sur les effets d'une montée en puissance des contaminations. Si la SNCF se prépare pour limiter les effets de ces annulations, ce n'est pas le cas dans d'autres secteurs où le système des au jour le jour est à ce stade privilégié. C'est le cas notamment chez les transporteurs routiers ou dans la grande distribution. Aucun plan de continuité de l'activité, le manque de main-d'œuvre sans possibilité donc d'embaucher des intérimaires interroge chez les transporteurs routiers. Aucune annulation à ce jour du côté de l'aérien français.
Et pour les secteurs stratégiques de l'économie, Laurent, on imagine que des plans de continuité sont prévus.
Oui, ce sont les seuls capables de se projeter sur une activité en mode dégradé. Ces plans de continuité de l'activité sont obligatoires dans l'acheminement de l'énergie, dans les centrales nucléaires, dans l'eau, dans tous les besoins essentiels. Mais le taux d'arrêt de travail lié au Covid a doublé dans les entreprises ces dernières semaines, passé de 6 à 12% selon l'Association nationale des DRH.
Et globalement, ce soir, est-ce que les entreprises regardent leur tableau de service avec inquiétude?
Eh bien non, précisément, l'exemple allemand ou britannique et l'avertissement du Conseil scientifique ne semblent pas inquiéter à ce stade les grandes entreprises. On s'attend évidemment à un mois de janvier très compliqué, souffle un DRH d'une enseigne de la grande distribution, car au-delà de 20% d'absentéisme, les entreprises où le télétravail n'est pas possible, seront en difficulté. Alors sans préjuger des effets sanitaires en janvier, c'est plutôt l'effet boule de neige dans l'accumulation des doses, des désorganisations qui est redouté.
Alors face à cet absentéisme record redouté en janvier et avec un variant semble-t-il moins virulent, une question se pose, faut-il revoir les règles d'isolement? Oui, répond ce soir le ministre de la Santé Olivier Véran.
Lorsque le variant Omicron est apparu, on a mis en place des mesures draconiennes d'isolement, de contact tracing, de séquençage systématique pour pouvoir empêcher ce variant de rentrer sur le territoire. Désormais, il circule, il est amené à être majoritaire, c'est l'affaire de 48-72 heures peut-être. Donc on peut sans doute, on peut certainement même commencer à modifier, comme nous l'avions fait avec d'autres variants, les conditions d'isolement pour les cas contacts. J'ai demandé au Conseil scientifique, j'ai demandé toute l'expertise nécessaire pour que nous puissions, au plus tard, en tout début de semaine à venir, déterminer quelles seront les nouvelles modalités d'isolement, à savoir est-ce qu'on traite le variant Omicron comme nous avions traité le variant Delta. C'est déjà arrivé que non seulement des soignants cas contacts soient amenés à travailler dans des services Covid, notamment, notamment, mais il est même arrivé que nous demandions, ça a été rare, mais souvenez-vous, pendant les vagues très fortes, que nous demandions à des soignants positifs au Covid asymptomatiques de travailler avec des conditions draconiennes de sécurité dans des unités Covid. C'est déjà arrivé, donc ça pourra arriver si c'était nécessaire.
Olivier Véran, au micro ce soir de Louise de Douillet. Aujourd'hui, une personne positive doit rester isolée 10 jours et selon les situations, un cas contact peut l'être 10 ou 17 jours s'il vit sous le même toit que la personne malade. À la veille de Noël, le message du chef de l'État, c'est aussi testez-vous, même vaccinez avant de vous retrouver en famille. Vidéo diffusée sur les réseaux ce matin, c'est bien ce que font de nombreux Français ces derniers jours. Il n'y a qu'à voir les pénuries d'autotests dans les pharmacies. Ce chiffre aussi jamais vu depuis le début de la pandémie. 6 200 000 tests de dépistage ont été réalisés la semaine dernière. Et aujourd'hui, c'est l'embouteillage dans les labos parce que c'est le dernier moment pour faire un test PCR et être sûr d'avoir le résultat avant le repas de demain soir. Reportage à Marseille, Hugo Charpentier.
Sur le parking de ce laboratoire, la file d'attente ne désemplit pas depuis l'ouverture ce matin. Ici, on réalise des tests PCR, c'est justement ce que veut Svetlana.
Parce que c'est plus fiable. Si on fait un test, autant que faire le plus fiable possible.
C'est aussi ce que pense Olivier.
Pour la famille, pour pas prendre de risques, quoi. Je préfère quand même faire un test pour rassurer mes parents, en fait, surtout.
Le résultat, lui, sera communiqué dans les 24 heures, juste avant, et bien normalement, de se mettre à table demain soir. Autant dire que Mylène, cas contact, va attendre ce résultat.
Avec de l'inquiétude. On a tous un peu de l'inquiétude par rapport à la table de Noël, de manger en famille.
Noël en famille ou les fêtes isolées, seules, à la maison. Cette Marseillaise d'une cinquantaine d'années se prépare au pire.
C'est comme ça, on se confinera et... Mais j'espère pas.
Et pour obtenir un résultat rapide, certains ont trouvé la parade. Un test PCR et la réponse en à peine une heure. Mais attention, ce n'est pas gratuit.
J'ai pu, en payant un dépassement d'honoraires de 75 euros, pouvoir avoir les résultats plus rapidement. C'est vrai que ça fait cher le test PCR.
Pas franchement le plus beau des cadeaux à s'offrir pour Noël, mais au moins ça permet de passer le réveillon en sécurité.
Si vous optez pour l'autotest, pour bien le faire, on vous a mis un tuto sur franceinter.fr et c'est vrai qu'il commence à manquer dans les pharmacies. L'opposition dénonce d'ailleurs le manque d'anticipation du gouvernement face à la pénurie. Nouvelle imprévoyance de l'exécutif pour l'écologiste Delphine Bateau. Il est en train de retard depuis 2 ans, tense de son côté Éric Coquerel pour la France insoumise. La candidate LR Valérie Pécresse, elle, réclame la gratuité jusqu'au 10 janvier et elle renouvelle son appel aujourd'hui à retarder la rentrée scolaire d'une semaine. 88 000 nouveaux cas ont été détectés ces dernières 24 heures, le pire chiffre depuis le début de la pandémie. Et à tout cela s'ajoute l'épidémie de grippe, l'Occitanie, première région touchée, plusieurs autres en prennent le chemin. Le conseil scientifique redoute les conséquences de la circulation de ce virus en même temps que le Covid, d'autant que cette année, la vaccination contre la grippe saisonnière marque le pas, constate le virologue Bruno Lina.
On est sur un niveau de préparation vis-à-vis du risque grippe qui est insuffisant. Il est nécessaire aujourd'hui de faire un rappel que ce virus peut être aussi un agent infectieux vis-à-vis duquel on sera confronté et vis-à-vis duquel une épidémie est possible. Et il y a un certain nombre de régions de France qui sont en situation pré-épidémique de grippe avec des virus de type A essentiellement, qui sont les virus qui donnent le plus de formes sévères. Le virus de type B donne des formes un petit peu moins sévères. Et donc là, il y a un potentiel de co-circulation des deux virus qui n'est pas une bonne nouvelle, avec une montée en puissance du virus de la grippe qui semble plus lent que dans un contexte où il n'y aurait pas circulation du SARS-CoV-2, bien évidemment. Mais une montée assez significative malgré tout. Ça va être quelque chose qu'il va falloir surveiller de façon très étroite à partir des 2 premières semaines de janvier. Donc ça nous donne le temps pour nous vacciner.
Bruno Lina, membre du conseil scientifique avec Hélène Chevalier. 2 informations encore en Guadeloupe. Des manifestants anti-pass sanitaires se sont introduits de force dans une session du conseil régional aujourd'hui. Et en Seine-et-Marne, la directrice d'un EHPAD a été placée en garde à vue puis sous contrôle judiciaire pour avoir travaillé avec un faux pass sanitaire.
À 19h09. Hélène, les pays engagés au Mali haussent le ton face à la menace Wagner.
Le groupe Wagner, une armée de l'ombre au service de Moscou, des mercenaires qui étendent leur influence en Afrique, au Mali particulièrement. Bonsoir Eric Biegala. Bonsoir. En tout cas, c'est bien le constat que font les partenaires internationaux engagés dans le pays, dont la France, et qui signent donc un communiqué commun ce soir.
Oui, les 14 pays partenaires internationaux présents au Mali, essentiellement des pays occidentaux, participant à la force Takuba ou à la MINUSMA des Nations Unies, ont tous tous rendu public ce soir un communiqué commun condamnant fermement le déploiement du groupe de paramilitaires russes Wagner au Mali. Alors, de sources gouvernementales françaises, on indique que les rotations des avions militaires russes ces derniers jours et ces dernières semaines sur Bamako ont permis le déploiement d'un contingent significatif de ces mercenaires russes. Officiellement, il s'agit de contractuels privés, mais tous sont d'anciens militaires et le groupe Wagner est très très proche du Kremlin. Son patron, Evgeny Prigojine, est même connu comme étant le cuisinier de Vladimir Poutine. Alors combien sont-ils d'ores et déjà présents à Bamako? Personne ne veut avancer de chiffres, mais la construction d'un camp militaire sur l'aéroport de la capitale malienne et des commandes de nourriture en quantité significative laisse penser qu'il pourrait s'agir d'un contingent important, souligne-t-on toujours de sources gouvernementales françaises. La junte au pouvoir au Mali avait refusé tout renforcement du contingent de casques bleus des Nations Unies pour assurer la stabilisation du pays ou la formation des militaires maliens. En revanche, elle vient donc de passer contrat avec le groupe Wagner. De sources diplomatiques américaines, on parle même d'un contrat annuel de 10 millions de dollars, et ce pour une mission qui reste totalement floue, mais qui pourrait bien se limiter à surtout permettre à la junte en question de se maintenir au pouvoir.
Et selon des experts de l'ONU, un des membres de Wagner aurait commis des violations systématiques et graves des droits humains. Les Occidentaux accusent donc Moscou d'être impliqué dans ce déploiement, alors qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine tenait sa conférence de presse annuelle. Plus de 4 heures, il aime l'exercice. Un moment toujours très attendu cette année, plus encore en raison du niveau de tension internationale particulièrement élevé ces derniers jours, sur l'Ukraine notamment. Le président russe semble s'ouvrir au dialogue, mais maintient le rapport de force. Sylvain Tronchet est à Moscou.
Il a fallu attendre une heure pour que la question lui soit enfin posée. La Russie veut-elle la guerre en Ukraine? Non, a répondu Vladimir Poutine, rappelant que les Russes, en revanche, voulaient toujours un engagement ferme de l'OTAN, qu'il n'y aura pas d'extension de l'Alliance à l'Est. Et sur ce point, il s'est dit satisfait de la réponse des Américains.
Je veux souligner que pour l'heure, nous voyons une réaction positive. Nos partenaires américains nous disent qu'ils sont prêts à débuter des négociations dès le début de l'année à Genève. J'espère que c'est ainsi que la situation va continuer à se dérouler.
Des pourparlers vont débuter, mais que se passera-t-il s'ils échouent? À cela, Vladimir Poutine n'a pas répondu, mais il a bien rappelé que ce dossier de l'élargissement de l'OTAN était une question, à ses yeux, de vie ou de mort pour la Russie.
On doit penser à notre sécurité, pas seulement pour aujourd'hui ni pour demain. Nous ne pouvons vivre en regardant au-dessus de notre épaule en se disant « Que va-t-il se passer? Quand vont-ils cogner ?»
Le président russe a donc choisi de temporiser dans ce conflit. En attendant, 100 000 soldats russes vont passer les fêtes en attente à la frontière ukrainienne. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
Ce ne sera pas un chèque en blanc, mais face à une population qui commence à mourir de faim, l'ONU va faciliter l'aide humanitaire en Afghanistan. Depuis la reprise en main du pays par les talibans cet été, le pays sombre. Plus de 3 millions d'enfants souffriront de malnutrition sévère cet hiver, selon l'UNICEF. Un chaos que 800 000 Afghans ont fui ces derniers mois. Exil soudain qu'a vécu Nabila, 20 ans. Elle était assise dans le même avion que Thibault Lefebvre à son retour de Kaboul. Il l'a écoutée mettre des mots sur cette allée sans retour.
C'est une lettre écrite à l'encre violette sur un papier volant.
Voir la ville d'en haut, ce n'est pas facile.
Nabila est assise côté couloir, elle empiète sur la coudoire et se penche vers le hublot. En contrebas, Kaboul, qu'elle n'a jusque-là jamais quitté.
C'est peut-être la dernière fois que tu vois ça, avec tes propres yeux. Cette ville dans laquelle tu as des souvenirs, dans chaque rue, là où tu as ri, tu as pleuré avec ceux que tu aimes.
Des mots saisis sur le vif pour ne jamais oublier cet instant où l'exil commence, sans vraiment savoir quand il prendra fin.
C'est le moment le plus authentique pour exprimer ce que je ressens. L'écriture nécessite des émotions. Et il faut les capter au moment exact où tu vois quelque chose et qu'elles te viennent en tête. C'est pour cette raison que je fais ça.
Nabila part avec sa maman et son petit frère de 9 ans, Ali. Elle a été menacée par les talibans après avoir participé à des manifestations de femmes. Et puis son papa a quitté la famille il y a quelques semaines. Il n'y a désormais plus d'hommes à la maison, alors que depuis le changement de pouvoir, les femmes ne peuvent plus sortir sans être accompagnées.
Ça fait 3 mois que je n'ai pas été dans des magasins. Je ne peux aller nulle part. Je n'ai pas de travail. Je ne peux pas étudier à l'université. Ils veulent me faire disparaître. Je dois partir et ça me fend le cœur.
Nabila a commencé à écrire dans le ciel de Kaboul. Elle termine sa lettre sur le sol d'Islamabad. Les autorités pakistanaises lui ont accordé un visa de 60 jours, 2 mois donc, pour faire le tour des ambassades en quête d'un pays d'accueil.
Le chemin de l'exil aussi pour ces 114 migrants, dont une trentaine de mineurs isolés secourus ces derniers jours par l'Ocean Viking au large de la Libye. Le navire de secours de SOS Méditerranée qui cherche toujours un port acceptant de les laisser débarquer.
Et sinon, la suite, c'est alors que la Belgique annonce l'arrêt de ses 7 réacteurs nucléaires en France. EDF se prépare à mettre en service le EPR de Flamanville.
Un chantier commencé en 2007, 10 ans de retard, de multiples incidents. L'autorité environnementale vient de rendre son avis sur la maîtrise des risques notamment. Il n'est que consultatif, mais il réclame plus d'informations sur les incidents de ces dernières années, Sandy Dauphin.
L'historique depuis le démarrage de la construction de l'EPR est riche d'aléas et de retards, note l'autorité environnementale. Et pourtant, dit-elle, le dossier reste totalement silencieux sur le retour d'expérience de cette première phase. L'autorité recommande de récapituler les incidents et accidents en lien avec la sûreté nucléaire et d'expliciter les mesures prises. En particulier pour ce qui concerne la cuve du réacteur, le cœur du dispositif, des anomalies avaient été constatées sur le fond et le couvercle. L'autorité environnementale s'étonne aussi que le dossier n'évoque aucun retour d'expérience pour les rares EPR dans le monde. Le réacteur finlandais vient d'être activé avec un retard de plus de 10 ans et 2 exemplaires ont été mis en service en Chine, à Taishan, en 2018 et 2019. L'un de ces réacteurs a été arrêté en juillet à la suite d'un incident. D'après l'autorité environnementale, une clarification sur les causes de cet incident, son éventuelle reproductibilité à Flamanville et sur les mesures pour exclure le même type d'accident apparaît comme indispensable dans le dossier qui sera présenté au public.
Sandy Dauphin, son nom est une marque et une entreprise parmi les plus connues de la coiffure. Franck Provost est aujourd'hui au cœur d'une enquête pour abus de biens sociaux et blanchiment de fraude fiscale. Le coiffeur star est mis en examen. Bonsoir Ariane Grissel.
Bonsoir.
Parce que l'enquête conduite depuis plusieurs mois a révélé l'utilisation d'un logiciel qui permettait de dissimuler une partie des recettes.
Oui, parce qu'il permettait de modifier la comptabilité de certains salons a posteriori, une option illégale. C'est ce qu'ont montré les investigations de l'OCLIF, l'Office de police judiciaire dédié à la lutte contre les infractions financières et fiscales. Sandrine Deliard en est chef adjointe.
Ce logiciel permet, une fois la comptabilité clôturée, de retirer une partie des paiements en espèces de la comptabilité, c'est-à-dire de le faire disparaître. Donc à l'origine, ce sont des logiciels qui sont tout à fait légaux, mais dont l'utilisation a été détournée à des fins frauduleuses.
De son côté, Franck Provost met en cause l'ancien directeur financier de son groupe, Philippe Bouchet-Zelgosi, et l'avocat du spécialiste de la coiffure.
En 2013, il y a un lanceur d'alerte qui l'a alerté dans son groupe qu'il y avait des suspicions de fraude concernant son ancien directeur financier. Et dès que Franck Provost a eu cette information, il a fait diligenter un certain nombre d'investigations. Et ces investigations ont effectivement permis d'établir que l'ancien directeur financier, d'une part, faisait des détournements de fonds à son profit et d'autre part, avait eu recours à un contournement d'un logiciel de caisse qui lui permettait d'empocher à son profit des espèces.
Et à en croire l'avocat, quand cet ancien directeur se retrouve en délicatesse avec le fisc, 4 ans plus tard, il accuse Franck Provost d'avoir mis en place ce système. Les investigations se poursuivent pour déterminer la responsabilité de chacun et la somme dissimulée à l'administration fiscale. À ce stade, le préjudice est estimé à plusieurs millions d'euros.
Ariane Grissel. Et puis c'est une figure majeure de la littérature américaine qui vient de nous quitter. Joan Didion, 87 ans, elle était journaliste, romancière, connue notamment pour son essai L'année de la pensée magique, où elle racontait la mort de son mari, incontournable pour son éditeur en France chez Grasset, Jean Materne.
D'abord, elle a révolutionné le genre du reportage littéraire. Elle a eu cette réflexion sur le jeu, comment apporter sa subjectivité en fait dans le reportage. Puis elle a publié des livres qui sont vraiment restés, je crois, comme des très grands livres sur le deuil. L'année de la pensée magique, qui est quand même le livre qui a vraiment marqué un large public. Elle a vraiment apporté sa personnalité, encore une fois, sa subjectivité à tout ce travail qu'elle a fait à la fois dans ses reportages et dans ses romans.
Alors elle était un personnage très particulier, c'est-à-dire qu'elle était à la fois une icône de mode presque, puisqu'elle avait posé pour Céline, pour des publicités, et en même temps, elle publiait des livres d'une grande profondeur.
Oui, d'ailleurs, elle a commencé sa carrière à Vogue, et elle dit qu'elle a beaucoup appris en fait en écrivant pour ce magazine de mode. Elle incarnait cette gauche californienne, tout en s'intéressant à ces sujets comme la mode. Elle avait ce regard qui balayait encore une fois tous les sujets de la société américaine. C'est vraiment un écrivain important. talent que nous perdons aujourd'hui.
L'hommage de Jean Materne au téléphone d'Ilana Mor-Youssef à Joanne Didion, qui savait mélanger fiction, reportage et ses critiques. Grasset publiera le 21 janvier prochain un recueil d'articles de l'auteur qui nous a donc quitté à l'âge de 87 ans.
Merci beaucoup Hélène Philippe pour le journal. Pour nous, ça continue jusqu'à 20h ce soir au téléphone. Nous allons échanger nos idées de livres, beaux livres, romans, BD pour faciliter vos cadeaux de dernière minute. Appelez-nous si vous avez un doute sur quelque chose dont vous avez entendu parler ou si vous avez une suggestion à faire. On fera ça ensemble et joyeusement au 01 45 24 7000. Le temps.
La météo avec les œufs de Loué. Savourez les œufs fermiers de Loué, de poules élevées en liberté. Loué, libre par nature.
Élodie Calac, la pluie gagne l'Est ce soir.
Oui, quelques pluies Fabienne. Alors demain matin, on les retrouvera encore du centre-Val de Loire et de la région parisienne vers le nord-est, seulement sur la Franche-Comté, la Lorraine et l'Alsace l'après-midi. On en aura d'autres qui arriveront par la Bretagne et la Basse-Normandie avec un vent de sud jusqu'à 60 km à l'heure. Et puis en allant vers le sud, des nuages demain, de la pluie de la Basse-Vallée du Rhône vers la région PACA et la Corse, un petit peu de neige sur le sud des Alpes vers 2000 mètres et on trouvera quand même des éclaircies bien appréciables sur le sud-ouest.
Et sinon, il fera doux.
Oui, 2 à 8 degrés le matin, peut-être quelques gelées encore dans les vallées de l'Est et en Auvergne. Et puis l'après-midi, 7 degrés à Strasbourg, Dijon, Grenoble, 8 à Lille, 10 à Paris, 11 degrés à Rennes, 13 degrés à Limoges, Lyon, Toulouse, 15 à Bordeaux et à Toulon et 18 à Biarritz. Et puis pour le réveillon de Noël et le jour de Noël, de la douceur, beaucoup de nuages et parfois un petit peu de pluie.
Allez, Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup.